Ouf, hein? L'hiver est dur des fois. Oui, je vais bien, merci. Ouais, j'ai eu la grippe en janvier. Ça a viré en sinusite. Ça a duré 3 semaines. Mais là, ça va mieux. Merci, Seigneur. Désolé, là, mon ordi s'est débranché, puis en le déplaçant, fait que ça va prendre un petit peu de temps, mais je vous invite à tourner dans 1 Samuel, chapitre 19. Puis, on est dans la série David, un cœur qui bat pour Dieu. On est déjà rendu à la sixième ou septième leçon, si on veut. Changer la source. Alors, pour faire une petite révision de ce qu'on a vu à date, on a vu que un cœur qui bat pour Dieu, bien, va chercher Dieu dans toutes les circonstances de sa vie. Hein? Et on a vu que David, il était berger, c'était une tâche ingrate, pas facile, pas amusant. Et pourtant, il y a eu une révélation de la personne de Dieu dans ces circonstances-là. L'Éternel est mon berger. Hey, c'est vrai, on va réciter notre psaume. L'Éternel est mon berger, le psaume 23. Il y en a-t-il qui l'ont pratiqué? À tous les jours, wow, bravo. Ça ne sera pas long, on va le sortir. J'ai oublié de sortir ça ce matin. Psaume 23. OK. Non? Voilà, désolé. OK. Donc, le psaume, non, c'est pas lui. Désolé. On a des petits problèmes techniques ce matin. OK, voilà le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Bravo. OK, donc on revient avec le message de ce matin. Ici, le résumé de ce qu'on a vu. Dieu utilise les circonstances de nos vies pour se révéler à nous. Et le cœur qui est tourné vers Dieu va chercher à le voir dans les circonstances que Dieu a permises dans nos vies. Dans tes circonstances à toi, où est-ce que tu vois Dieu? Où est-ce que Dieu se révèle à toi? On a vu qu'un coup que David a été voint roi, eh bien, il aurait pu partir en grand, là, puis planifier son avenir et rêver à ce qu'il allait faire en tant que roi et s'entourer d'amis, commencer à festoyer, à vivre la grosse vie. Est-ce que c'est ça qu'il a fait? Non, il a continué à servir Dieu humblement, premièrement dans la bergerie avec les brebis de son père, et après ça, il jouait pour Saül dans le palais. Et la question qu'on s'est posée, est-ce que ton avenir t'empêche de servir Dieu maintenant? Est-ce que des fois, on t'est trop focusé sur l'avenir que ça t'empêche de servir Dieu là? Bien, David, un cœur tourné vers Dieu, un cœur qui bat pour Dieu, a continué de servir Dieu humblement, même sachant qu'il allait être roi, avec toute la gloire, la richesse que ça allait apporter. Ensuite, on a vu qu'un cœur, on a fait le contraste avec un cœur égocentrique et un cœur christocentrique dans le cas où il y avait l'anxiété. On a vu avec Saül que l'anxiété l'avait poussé d'agir de façon insensée. Et dans l'épisode avec Goliath, avec le géant, que l'anxiété l'avait paralysé. Donc, l'anxiété frappe notre cœur et on va encore ce matin parler de ça. On revient là-dessus. Puis ça rejoint bien ce que Maurice a dit dans son introduction. Ça s'imbrique parfaitement. Seigneur, t'as dirigé, mon frère. Bon, ensuite, on a vu que David avait vécu une victoire écrasante de la foi. Un cœur qui bat pour Dieu, c'est un cœur qui s'accroche à la personne de Dieu et à sa parole. Et ça produit quoi? La foi. Et la foi ne peut pas exister dans un vacuum. Ça, c'est de la superstition. OK? C'est quoi la différence entre la foi et la superstition? La superstition, c'est que tu te crains qu'à croire quelque chose, là. Ou on te dit, faut pas que tu fasses ça parce que telle chose va arriver. Si un chat noir te croise ton chemin, un malheur va t'arriver. Ça, c'est de la superstition. Ça repose sur rien. Mais tu peux croire dur comme fer que c'est vrai. Tu peux croire dur comme fer que les astres qui étaient de telle façon lors de ta naissance déterminent ton caractère. Ça repose sur rien. Ça repose sur rien. Ça, c'est de l'astrologie. C'est de la superstition. La vraie foi n'est pas une superstition. La vraie foi ne demande pas que tu prennes ton cerveau, ton intellect et que tu le mettes sur la tablette. La vraie foi te demande de croire à un Dieu réel qui existe réellement et qui agit réellement dans la vie de tous les jours et qui a prouvé son existence par toutes sortes d'événements à travers l'histoire et surtout par la venue de Jésus-Christ. Jésus a dit, « Personne n'a vu le Père, je suis venu vous le révéler. » Tu veux savoir comment il est, Dieu? Va voir Jésus. Ça, c'est la foi. Donc, David, dans son affrontement vers Goliath, n'est pas arrivé à dire, « Ah, je crois, moi, que je suis capable de battre le géant. Moi, je suis capable parce que je suis un croyant et je suis capable. Je puis tout en Jésus-Christ. Et là, tu es capable. Dis-toi que tu es capable. » Non. Non. Pourquoi David a pu avoir la victoire sur le géant? C'est parce qu'il savait que Dieu avait ordonné à Israël d'entrer dans le pays, de balayer les ennemis, qui à ce moment-là, Dieu avait décidé de balayer. Okay? Dieu avait décidé. Dieu est souverain, il peut faire ce qu'il veut. Okay? Et il avait ordonné à Israël de le faire. Et là, ce géant-là, ces peuples-là, venait dominer Israël, venait écraser Israël, et David a dit non. Il n'en est pas question parce que à cause de qui Dieu est, il est le roi d'Israël, et à cause de qui nous sommes. Nous ne sommes pas les hommes de Saül, nous sommes l'armée du Dieu vivant. Donc sa foi basait sur ces deux choses et ça a permis qu'il écrase l'ennemi. Il faut faire attention avec ça. Hein. Je reviens là-dessus. Là, parce que souvent, dans les enseignements que vous allez voir sur Internet, c'est « Tu n'as que dire qu'est-ce que tu veux et tu vas l'avoir. Et c'est la foi. Tu es capable. Dieu te rend capable. » Attention là. Attention. Oui, si Dieu a fait une promesse. Oui, si le caractère de Dieu est en jeu. Alors là, oui. On peut être solide sur la foi, c'est pas nous. David n'a pas dit, hey, Goliath, moi là. Non, il dit, moi je viens au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, que tu as insulté. Il n'était pas là pour lui. Il n'était pas là pour ses intérêts. Là. Souvent ce qu'on fait, c'est que Dieu m'aide-moi. Mais c'est mes projets, c'est mes affaires. Je veux que Dieu m'aide, moi. Et puisque je fais ce que lui veut, ben je dis, là, je suis capable maintenant d'avancer dans mes projets. C'est pas ça. Mais, on a vu qu'il peut avoir des victoires écrasantes par la foi. Et est-ce que tu veux marcher par la foi? Si tu marches par la foi, tu peux vivre des victoires écrasantes. On a vu également que David remporte, après la victoire sur Goliath, il remporte plein de victoires, plein de victoires, mais demeure humble. Il ne s'est pas glorifié de ça, il ne s'est pas soulevé contre Saül, il n'a pas dit « Toi le vieux, là, c'est temps que tu débarques, c'est à mon tour ». Non. David est resté humble. Quand Saül lui a proposé de devenir son genre, il dit « Qui suis-je pour devenir le genre du roi? » Wow! Donc, c'est ce qu'on a vu à date. C'est-tu des bonnes leçons pour nos vies, ça? Mais, hein? C'est des bonnes leçons pour nos vies. Maintenant, on va lire 1 Samuel, chapitre 19. 1 Samuel, chapitre 19. Je vais lire dans le second 21. Saül parla à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Bon, qu'est-ce qui se passe? On a vu il y a deux semaines, Saül est jaloux de David et il a peur de David parce que l'Éternel est avec lui. Okay? Mais Jonathan, fils de Saül, avait une grande affection pour David. Il en informa en lui disant, « Mon père Saül cherche à te faire mourir. Tiens-toi donc sur tes gardes demain matin, reste à l'écart et cache-toi. Quant à moi, je sortirai, je me tiendrai aux côtés de mon père dans le champ où tu te trouveras. Je lui parlerai de toi, je verrai alors ce qu'il dira et je te le rapporterai. » Jonathan parla en bien de David à son père Saül. Il dit, « Que le roi ne commette pas de péché envers ton serviteur David, car il n'en a pas commis envers toi. Au contraire, il agit pour ton bien. » Tu vois, on a vu il y a deux semaines, Saül était en colère parce qu'on attribuait plus de gloire à David qu'à lui. Et la colère, c'est toujours une réaction à l'injustice perçue ou réelle. Et dans ce cas-là, c'était une injustice perçue. Il n'y avait pas d'injustice. Mais lui, il l'a vécu comme une injustice. Mais là, son fils le ramène à la réalité. Des fois, là, il faut écouter ce que les autres disent. Parce que tu peux drôlement te tromper dans tes perceptions. Ici, Saül, là, il veut tuer David parce qu'il est perçu qu'il y a une injustice et qu'il faut qu'il l'écrase parce que c'est une menace. Sa perception est toute voilée, est toute tordue. Mais son fils essaie de lui parler avec raison. Il dit, « Père, pourquoi tu commettrais un péché contre David? Il n'en a pas commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. » Il a risqué sa vie. Il a tué le Philistin. Et l'Éternel a accompli une grande délivrance pour tout Israël, dont toi, tu es le roi. Tu devrais plutôt te réjouir. Tu as vu cela et tu t'en es réjoui. Mais là, plus maintenant. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu mourir David sans raison? Saül écouta Jonathan. Wow. OK. Pour le moment. Et jura, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces choses, puis il le conduisit chez Saül et David fut à son service comme auparavant. Encore une fois, on voit David humble. Il aurait pu dire, pas question. Hein? Pas question que je retourne servir ce méchant homme-là. Là. Pas question, c'est moi d'abord qui est le roi. C'est moi qui ai reçu l'onction. Lui, c'est une question de temps. Il n'en est pas question. Non? Non? Souvent, on voit le cœur de David qui est tourné, qui bat pour Dieu, et ça se manifeste parce qu'il n'est pas là. Parce qu'il n'est pas présent. Ça brille par son absence. Hein? Son ambition, son manque d'orgueil brille par absence. C'est l'humilité qui sort. On continue. La guerre, verset 8, continuait avec les Philistins. David marcha contre les Philistins et se battit contre eux. Il leur infligea une grande défaite et ils prirent la fuite devant lui. Alors le mauvais esprit envoyé par l'Éternel fut sur Saül. Celui-ci était assis dans sa maison, sa lance à la main. Encore une fois, si vous avez des interrogations sur comment ça se fait qu'un mauvais esprit soit envoyé par l'Éternel, retournez écouter les enseignements. David jouait, Saül voulait le clouer avec sa lance contre la paroi, mais David l'évita et la lance s'enfonça dans la paroi. Tong! David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül a envoyé des hommes à la maison de David pour le surveiller et le faire mourir au matin. Mais Michal, la femme de David, qui était la fille de Saül, l'en informa et lui dit, « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es un homme mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et prit la fuite. C'est ainsi qu'il s'échappa. Ensuite, Michal prit le téraphin, l'idole domestique, et le plaça dans le lit. Elle mit une peau de chèvre et la tête du lit, et elle enveloppa le téraphim ou l'idole domestique d'une couverture. Lorsque Saül envoya des hommes arrêter David, elle dit, « Il est malade. » Saül les renvoya pour qu'il le voie. c'est humoristique, la Bible, hein? Saül dit, « Va le ramener à moi, je veux le tuer. » Ici, là, ils reviennent. « On peut pas, il est malade. »« Il peut pas, il est malade. » Saül dit, « Les renvoie, et j'imagine le mettre dans tous ses états, pour qu'il le voie en disant, « Apportez-le-moi dans son lit afin que je le fasse mourir. » Ses envoyés revinrent et constatèrent que c'était le téraphin qui était dans le lit avec une peau de chèvre à l'endroit de la tête. Saül dit à Michal, donc les envoyés ils ont ramené Michal, « Pourquoi m'as-tu ainsi trompé? As-tu laissé partir mon ennemi? Voilà qu'il s'est échappé. » Michal répondit à Saül, « Il m'a dit, laisse-moi partir ou je le tue. » Je reviens sur ces choses-là tantôt. Okay? C'est ainsi que David prit la fuite et put s'échapper. Il se rendit vers Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel habiter à Najot. On le rapporta à Saül en disant, « David se trouve à Najot près de Rama. » Prions. Éternel notre Dieu, roi de l'univers, souverain créateur du ciel et de la terre, Dieu tout-puissant, Dieu souverain, le Très-Haut, qui demeure dans la sainteté et dans les lieux élevés. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi seul la gloire. Nous te bénissons, Seigneur, nous t'adorons pour qui tu es. Ce Dieu merveilleux, magnifique en sainteté, glorieux en majesté, opérant des prodiges, digne de louange. Père, fais briller sur nous ta face ce matin. Accorde-nous la grâce, ta grâce. La grâce de s'humilier, la grâce d'être à tes pieds pour t'écouter. La grâce de recevoir ta parole. La grâce de rester attaché à toi, Seigneur. Ou de se rattacher, puisque nos cœurs s'égarent si facilement, Seigneur. La grâce de faire de toi notre trésor. La grâce de marcher dans les traces de Jésus. La grâce de lui ressembler de plus en plus. Oui, Seigneur, accorde-nous ton esprit, un esprit de sagesse et de révélation pour te connaître ce matin, pour la gloire de Jésus. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Amen. Ce matin, on va voir qu'un cœur qui bat pour Dieu se tourne vers lui et expérimente la protection puissante de son esprit. Se tourne vers lui, comme on a entendu tantôt par Maurice. On va voir que servir Dieu fidèlement attire les foudres de l'ennemi. Quelle est ta réaction naturelle lorsque ça arrive? Comment Dieu intervient en faveur de son roi? combattre le mauvais adversaire et employer les mauvaises armes. Donc, premier point, servir Dieu va attirer les foudres de l'ennemi. David ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement servi Dieu. Hein? Il était au service de Saül. Saül le renvoie encore sur le champ de bataille. Il remporte des victoires. C'est à la gloire de Dieu. Merveilleux, la grâce de Dieu est sur lui. Boum! Qu'est-ce qui se passe? Une attaque. Une attaque. Saül veut le tuer. Est-ce que c'est assez clair avec la lance qui est piquée dans le mur? C'est assez clair, hein? Il n'y a pas de l'ambiguïté. Malgré ce qu'il avait dit à son fils, là. Et on va voir à travers l'histoire de David que Saül change souvent d'avis. Et ça, les amis, c'est un indicateur d'un cœur égocentrique. Parce que on a vu qu'un cœur christocentrique, son identité, sa valeur, lui vient de qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de moi? Et qu'est-ce qui détermine tout dans ma vie? Mais un cœur qui est coupé d'avec Dieu, il a quoi comme référence? Lui-même. Donc, il peut décider un jour que c'est ça, la vérité. L'autre jour, c'est « ben non, finalement, c'était pas ça, c'est ça ». Il va faire des revirements. Il va décider quelque chose un jour. Le jour, le lendemain, il revient. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un? Écoutez, je ne veux pas rentrer dans la politique, ce n'est pas la place. Mais je veux vous dire qu'on va revenir parce que la situation est anxiogène. On va en parler tantôt, OK? Pour beaucoup de gens. Peut-être pas tous. Non, beaucoup de gens. Mais j'ai fait un aparté, là, excusez-moi. Ici, il y a une attaque. L'attaque contre David se manifeste ouvertement. C'est des attaques concrètes en attentant à sa vie, une intrusion dans sa maison, des menaces contre son épouse, des complots contre lui. Et tout ça, pourquoi? Simplement parce qu'il sert le Seigneur fidèlement du mieux qu'il peut. Oh! Est-ce que ça peut t'arriver, toi? Oui, ça peut t'arriver. Ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie. Jésus l'a dit, n'est-ce pas? Tout le monde vous haïra à cause de moi. Tu veux servir Dieu? Attention, ça va attirer les foudres de l'ennemi. Es-tu prêt? Es-tu prêt à t'engager? Notre frère va s'engager dans 2 semaines publiquement. As-tu compté le coût, comme disait Jésus? As-tu compté le coût? Être un disciple de Jésus-Christ, c'est pas d'être assis sur un yacht puis la belle vie, là. On est plutôt sur une embarcation de guerre, là. Et l'ennemi va tirer. Il va tirer. Jésus dit aussi, le disciple n'est pas plus grand que son maître, hein, que celui qui l'enseigne, ni le serviteur supérieur à son maître. Pour le disciple d'être comme celui qui l'enseigne, au serviteur d'être comme son maître. S'ils ont qualifié le maître de la maison de Belzébul, qui veut dire Satan, que diront-ils de ceux qui font partie de cette maison, de sa famille? Matthieu 10, 25. Souvenez-vous, Jésus a dit, de ce que je vous ai déjà dit, le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Jean 15, 20. Donc, quelle est la réaction naturelle lorsque tu es attaqué, tu es menacé à cause de ton service pour Dieu? On a vu comment un cœur égocentrique réagit par l'exemple de Saül. Lorsque Saül percevait une menace, eh bien, ça l'a amené à une de deux choses. La menace arrive, ça frappe un cœur égocentrique, on veut dire quoi par là? C'est un cœur qui s'appuie sur lui-même, qui est centré sur ses désirs, qui s'appuie sur ses forces, sur ses moyens, qui a juste ses projets en tête. Ça, c'est un cœur centré sur lui. Égocentrique, qu'est-ce qui se passe? Une menace arrive, alors il y a une de deux choses qui va arriver. Soit qu'on va prendre les choses en main et on va faire des choses insensées. Et c'est ce que Saül a fait une fois. Insensé veut dire sans tenir compte de Dieu ni de sa parole. Tu fais ce que ce qu'il faut faire, parce qu'il faut faire ça pour échapper à la situation. Donc, des actes insensés ou de l'anxiété, hein? La paralysie que produit l'anxiété. Et où est Dieu là-dedans? Très, 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 très loin, s'il paraît du tout dans le portrait. Qu'est-ce que le cœur égocentrique va faire lorsqu'il est attaqué? Il va se centrer sur la menace, sur sa réaction à la menace. C'est tout ce qui préoccupe sa vision. La menace, puis qu'est-ce que je vais faire? Dieu n'est pas dans le portrait. Est-ce que ça t'arrive de faire ça? Oui, moi aussi, ça m'arrive. Donc l'anxiété, on va voir que ça peut pousser à des actes insensés et aussi, ou en parallèle, ou contrairement, ça peut me paralyser. Je ne suis plus capable de rien faire, comme avec le Goliath, dans l'histoire de Goliath. Ça, on a vu ça. On a vu lorsque une injustice frappe un cœur égocentrique. Qu'est-ce qui se passe? Ça produit la colère. Et l'injustice peut être réelle ou perçue, comme la menace. Elle peut être réelle ou perçue, mais tes perceptions peuvent être faussées. On l'a vu avec Saül. Sa perception est faussée. Mais il est convaincu, dur comme roc, que c'est vrai, là. OK? Et encore une fois, Dieu n'est pas dans le portrait. Mais, savez-vous, on veut savoir comment David, lui, ici, réagit. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est que si vous tournez dans le psaume 59 a été écrit par David, justement, pendant ce même épisode-là, ou en rapport avec les événements de ce qu'on vient de lire. C'est ce qui est marqué, c'est pour moi qui l'invente. C'est marqué au début du psaume 59. Vous allez le lire avec moi? Au chef des chœurs sur la mélodie ne détruit pas, hymne de David, lorsque Saül envoyait cerner sa maison pour le faire mourir. Alors David dit, « Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi de ceux qui commettent l'injustice et sauve-moi des hommes sanguinaires. Car les voici aux aguets pour m'enlever la vie. Des hommes puissants complotent contre moi sans que je sois coupable, sans que j'aie péché. Malgré mon innocence, ils accourent prêts à m'attaquer. Réveille-toi, viens vers moi et regarde. Toi, Éternel, Dieu de l'univers, Dieu d'Israël, lève-toi pour corriger toutes les nations. Ne fais grâce à aucun de ces traîtres impies. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. De leur bouche, ils font jaillir l'injure. Leurs paroles sont des épées. Ils disent, qui est-ce qui entend? Mais toi, Éternel, tu te ris d'eux. Tu te moques de toutes les nations. Toi qui es ma force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma forteresse. Mon Dieu m'accueille dans sa bonté. Dieu me fait contempler mes adversaires. Ne les tue pas, sinon mon peuple les oublierait. Fais-les trembler par ta puissance et jette-les à bas, Seigneur, notre bouclier. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent que malédiction et mensonge. Détruis-les dans ta fureur, détruis-les et qu'ils n'existent plus. Qu'on sache que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Ça, c'est comme un refrain, hein? C'est parce que les psaumes, c'est des chants, hein? Ils errent ça et là, cherchant leur nourriture, et ils passent la nuit sans être rassasiés. Quant à moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une forteresse, un refuge quand je suis dans la détresse. Toi qui es ma force, c'est pour toi que je veux chanter, car Dieu, mon Dieu si bon, est ma forteresse. Donc, le psaume ici, c'est merveilleux, parce que c'est comme une fenêtre dans le cœur de David. On voit ce qui vient de passer, et là, pour essayer de deviner qu'est-ce qui se passe dans son cœur, on n'a pas besoin parce qu'il l'a écrit. C'est comme une fenêtre dans son âme. C'est merveilleux. On va voir un cœur qui bat pour Dieu. Qu'est-ce qu'il fait face à la menace? Donc, on a vu que David, premièrement, il s'enfuit. C'est normal, c'est juste normal. Il s'enfuit parce que sinon, il va se faire tuer. Mais qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Ah, avant, je veux revenir sur, oui, les interrogations par rapport au passage. Première interrogation, c'est comment ça se fait qu'il y a une idole dans la maison de David? Hein? Parce que Michal, sa femme, pour tromper les soldats, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'idole domestique, elle met dans le lit, avec une peau de chèvre pour la tête. Elle dit, mais voyons donc, c'est que ça fait là. OK? On ne sait pas. La vraie réponse, c'est qu'on ne sait pas, mais je crois personnellement que cette idole-là n'appartenait pas à David. Probablement que ça appartenait à sa femme. Maintenant, pourquoi David s'en est pas débarrassé? Encore là, je n'ai pas de réponse à vous donner. Mais il faut puis les autres choses aussi qui passent dans le passage, c'est pas tout. Quand tu lis un récit là, dans l'Ancien Testament, tu te dis, « Ah, Salomon, il y a eu 600 femmes. Ça veut dire que moi aussi, je peux en avoir 600. » Non, non. Ce qui est relaté sur la vie des gens, là, ce n'est pas nécessairement une prescription. C'est une description. OK? Il faut faire la distinction entre une description et une prescription. Quand on retourne dans la loi de Moïse, c'était clair, là. Un homme, une femme, c'est pourquoi l'homme laissera ses parents, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est la prescription. Okay? La description de Saül, de Samuel ou de David qui ont eu plusieurs femmes, ça ne t'autorise pas. C'est en contradiction. Ça, c'est pour ça qu'on dit aussi que la Bible, là, elle est crédible. Pourquoi qu'elle est crédible? Parce que les héros dans la Bible, là, ce ne sont pas des gens parfaits. Ce ne sont pas des gens parfaits. Ce ne sont pas des gens qu'on a montés là, par imagination de toutes pièces. Ce sont de réelles personnes qui font des erreurs, qui commettent des péchés. Bon, pourquoi David n'a pas éliminé l'idole? Je ne peux pas vous le dire, mais ça ne prescrit pas qu'on peut avoir deux dieux, pas du tout. Deuxième point d'interrogation, c'est lorsque Saül demande à Michal, « Pourquoi tu l'as laissé aller? » Elle dit, « Maudit, je vais te tuer sinon. » On dit, wow, attends un peu, là. David, il a menacé sa femme de le tuer. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense pas, hein? Je ne pense pas. Je pense que c'est Michal qui, devant la menace de son père, a dit ça. Donc, probablement qu'elle a menti à son père pour se protéger. Ah, c'est correct de faire ça? Non, non, c'est pas correct de faire ça. C'est une description de ce qui s'est passé. OK? Fait qu'on ferme la parenthèse. On revient à Psaume 59, ça marche. Quelle sera la réaction de David? Quand j'examinais le Psaume 59, j'ai réalisé qu'il y avait quatre sections dans ce psaume-là. Chacune débute avec un appel dirigé vers Dieu et comme un cri de secours, si on veut, suivi d'une description de la situation, de la menace. Alors, regardez. Verset 2. Mon Dieu, il crie à Dieu, hein? Mon Dieu, délivre-moi des ennemis, protège-moi contre mes adversaires, délivre-moi de ceux qui commettent l'injustice et sauve-moi des hommes sanguinaires. Il se tourne vers Dieu. Un cœur qui bat pour Dieu se tourne vers Dieu quand il est menacé. Il se tourne vers Dieu. Déjà là, on dit, waouh, gloire à Dieu. Après ça, qu'est-ce qu'il fait? Verset 4 et 5. Car, là, il décrit la situation. Les voici aux aguets pour m'enlever la vie. Des hommes puissants complotent contre moi, sans que je sois coupable, sans que j'ai péché, Éternel. Malgré mon innocence, ils accourent prêts à m'attaquer. Donc, tourne vers Dieu, tourne vers la situation. Ça, c'est une section. Deuxième section. Toi, Éternel, réveille-toi, viens vers moi, regarde, toi, Éternel, Dieu de l'univers, Dieu d'Israël. Il se tourne encore vers Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il décrit qui est Dieu. Il se concentre sur la personne de Dieu. On a vu tantôt qu'un cœur égocentrique se concentre sur quoi? La menace, ma réaction, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me sortir de là? Hein? C'est ça. On focus là-dessus. Un cœur christocentrique va faire quoi? Va se tourner vers Dieu, va se concentrer sur la personne de Dieu. Qui es-tu, Dieu? J'ai besoin de me rappeler, t'es qui face à cette situation-là qui m'envahit, qui risque de m'écraser. T'es qui? Éternel Dieu de l'univers, Dieu d'Israël. Lève-toi pour corriger toutes les nations. Ne fais grâce à aucun de ces traîtres impies. Pause. Et là, ils retournent à la situation. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. De leur bouche, ils font jaillir l'injure. Leurs paroles sont des épées. Ils disent qui est-ce qui entend. Donc, ce n'est pas de nier la situation. Ce n'est pas de vivre dans le déni. Non. Il est vraiment là. Dans détresse, David, là. Il va le dire tantôt à la fin du son. En détresse. Il est en détresse. Et il fait une description très complète de la situation. Ça, c'est un bon point pour nous à retenir. Lorsqu'il arrive une situation qui te menace, là, souvent, là, on est concentré sur la personne qui a causé ça, puis qu'est-ce que j'ai à faire. Okay? Mais on ne va pas à Dieu avec ça. Deux, si on y va, on ne révèle pas vraiment ce qui se passe dans notre cœur. Je suis anxieux, Seigneur. As-tu déjà dit ça à Dieu? Je suis anxieux. C'est dur. Moi, c'est dur pour moi d'admettre que je suis anxieux. J'ai vécu des choses dernièrement qui m'ont rendu anxieux, puis là, j'étais là, ouf, ça va pas, ça va pas. Ça a été difficile pour moi de m'admettre que j'étais anxieux. Je veux pas être anxieux. Je veux être en contrôle. Mais c'est de l'admettre à soi et de le dire à Dieu aussi. Donc, verset 9, troisième section, il se retourne encore vers Dieu. Mais toi, Éternel, tu ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Attention, Dieu n'est pas moqueur. Hein, qui se rit de toi parce que tu as fait une erreur ou qui te méprise, regarde, tu vois comment tu vis, là, il te donne des bottes dans le derrière. Non, Dieu n'est pas moqueur. Mais ceux qui se révoltent contre Dieu, qui s'élèvent contre Dieu, qui veulent être à la place de Dieu, la Bible dit oui, Dieu se moque d'eux. Dieu, c'est comme s'il hoche des épaules et dit... C'est comme si une puce venait s'attaquer au plus grand, plus fort homme de l'univers. Je ne voudrais pas être à la place de l'homme qui s'élève de cette façon contre Dieu. Il va subir les foudres de Dieu. Donc, David, il dit, encore là, il focus sur qui est Dieu. Et dans sa prière, dans son temps de prière, il y a des révélations. Il y a des révélations de qui est Dieu. Dieu est tellement grand, là, qu'il se rit de ceux qui veulent mon mal. Ils sont ridicules. C'est comme des enfants qui s'en prennent à un champion. Dieu se moque d'eux. Tu es ma force. C'est en toi que j'espère, car Dieu est ma forteresse. Est-ce que c'est David qui a inventé ça? Non. C'est une révélation de l'Esprit. L'Esprit lui a révélé que Dieu, c'est sa forteresse. Wow! Comment je peux dire ça? Parce que c'est dans la parole. Mon Dieu m'accueille dans sa bonté. Dieu est bon. Dieu me fait contempler mes adversaires. Alors là, c'est comme, des fois, on a peur de regarder la menace. On ne veut pas trop là, que ça vienne. Hein? On essaie d'éviter de fuir. Mais là, il dit, je suis capable de contempler mes adversaires. Mais en paix. Pas avec anxiété. Il est capable maintenant de se distancer de la situation, de contempler ses adversaires du point de vue de Dieu. Parce que maintenant, son âme est rattachée à Dieu. Son âme est en diapason avec Dieu. Et il est capable de contempler ses ennemis. Wow! Ne les tue pas, sinon mon peuple oublierait. Il fait même, Dieu tire une leçon de cette situation-là pour mon peuple. Wow! tire une leçon spirituelle de cette situation pour mon peuple. Il pense à son peuple. Ne les tue pas, sinon mon peuple oublierait. Fais-les trembler par ta puissance et jette-les à bas. Seigneur, notre bouclier, encore là, une autre image qui lui est révélée dans la prière. Dieu est mon bouclier. Wow! Imaginez l'effet que ça a sur son âme. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent que malédiction et mensonge. Détruis-les dans ta fureur. Détruis-les qui n'existent plus. Qu'on sache que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Encore là, une révélation de qui est Dieu. Dieu règne. Dieu règne. Dieu règne. Dieu est souverain sur ma vie. Il est souverain sur la situation qui me menace. Amen. Après ça, il le décrit une dernière fois, là, comme j'ai dit, c'est comme un refrain. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville, ils errent ça et là, cherchent la nourriture, ils passent la nuit sans être rassasiés. Mais David termine encore une fois en se retournant vers Dieu. Il termine comme cela. « Quant à moi, je chanterai ta force. » Wow! Là, il est dans la joie. Là. Il est dans la joie. « Je chanterai ta force dès le matin. Je célébrerai ta bonté. » Vous savez, quand on est menacé et qu'il y a une situation qui nous trouble, là, hein? C'est la dernière chose que tu veux faire. Hein? Chanter, célébrer. C'est plutôt des plaintes. C'est plutôt des frottements de mains. C'est ici, là, on voit que David, maintenant, est libre. Il est libre de la prison, de la menace, libre de la prison, de l'anxiété. Et son âme chante à Dieu, malgré la situation n'a pas changé, là. Malgré la situation, il chante, il célèbre Dieu. Son cœur est dans la joie. « Toi qui es ma force, c'est pour toi que je veux chanter, car Dieu, mon Dieu, si bon, est ma forteresse. » Wow! Ce psaume merveilleux, comme j'ai dit, c'est une fenêtre sur l'âme de David. Et ça illustre bien ce qui se passe souvent dans notre cœur, dans le mien et le tien. Souvent, il y a une alternance de détresse et d'espoir, hein? Tu le vois là dans le psaume, hein? Il tourne vers Dieu, il décrit la situation. Il se tourne vers Dieu, il se préoccupe encore de la situation. On alterne entre période de préoccupation envahissante avec la menace et une recherche du secours de Dieu. Par contre, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je reste souvent coincé dans la préoccupation avec la situation. Assez souvent, la préoccupation m'envahit avec la menace et prend toute la place que Dieu devrait prendre dans mon cœur. Dieu devient très loin de mon esprit, de mon cœur. Lorsqu'on est dans cet état, toi et moi, là, on est centré sur nous-mêmes. On est comme emprisonné, comme j'ai dit, dans la douleur, dans la peur. On est incapable de voir la gloire de Dieu ou le louer, pas vrai? Assez souvent, lorsqu'on est dans cet état, on tente de trouver une solution, comme j'ai dit, soit fuir, soit affronter, soit contourner, soit manigancer ou manipuler les gens ou la situation à notre avantage, soit rester paralysé, comme on a vu avec Saül, soit vivre dans le déni, comme si la menace n'existait pas. David, comme j'ai dit ici, ne diminue aucunement la menace. Il ne cherche pas à la relativiser ou la rationaliser. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers Dieu. Il se concentre davantage sur lui que sur la menace. Le psaume dépeint une relation marquée par une intimité réelle avec son berger, une confiance palpable née de ses expériences antérieures avec lui. C'est beau de voir le cœur de David, pas vrai? David a reçu, comme j'ai dit, juste pour résumer, plusieurs révélations de la personne de Dieu dans ce temps de prière-là. Dieu se moque de ses adversaires. Il est tellement grand. Dieu sera sa force, sa forteresse. Dieu aime David, personnellement. Avez-vous vu ça? J'essaie de trouver le verset, là. En tout cas, c'est peut-être dans une autre version. Dieu viendra à sa rencontre. Dieu lui fera voir ses ennemis vaincus. Dieu est son bouclier. Son cœur passe de la détresse à la confiance. Tu es ma force, vers qui je regarde. Dieu ma forteresse, un Dieu qui m'aime, qui viendra à ma rencontre. Son cœur est attaché aussi à la gloire de Dieu. Hein? Il désire que tous, Israël et les autres nations, sachent qui est Dieu, qu'il est le Dieu qui règne. Que toutes les nations le sachent, qu'Israël le sache. Qu'on sache, verset 14, que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, un cœur qui est christocentrique, qui est centré sur Dieu, va même voir comment la situation qu'il vit, qui est menaçante, qui est dangereuse, peut tourner à la gloire de Dieu. Souvent, on perd, hein? On perd la notion de la gloire de Dieu. Quand on étudie comment la Bible nous enseigne de réconcilier, de régler les conflits, hein? Le premier principe, c'était quoi? Rechercher la gloire de Dieu. De quelle façon, dans ma situation, dans mon conflit, de quelle façon ça peut glorifier Dieu? De quelle façon Dieu veut travailler dans cette situation-là pour glorifier son nom? Parce que nous existons pour la gloire de Dieu. On l'oublie souvent. On l'oublie souvent. Mais ici, David, là, c'est merveilleux parce que dans sa situation, il recherche encore même la gloire de Dieu. Que toute la terre sache que c'est toi qui règne. On retourne dans 1 Samuel 19. On n'avait pas fini l'histoire. C'est des choses vraiment intéressantes à venir, OK? Je me dis, on devrait prendre une pause café. Mais ça serait dur. Ça serait dur de faire revenir le monde. 1 Samuel 19, on est rendu au verset 20, OK? Vous êtes là? On est rendu où dans l'histoire? David se réfugie chez Samuel, le prophète qui l'avait oint roi, dans une autre ville. Et là, Samuel dit, OK, viens David, on va aller dans un autre village où il y a mon école de prophètes. Des prophètes comme Samuel, ils avaient souvent des disciples. Okay? Ceux-là qui suivent le cours Coaching 101, vous le savez, ils avaient souvent des disciples, des écoles de prophètes. Et il dit, viens avec moi, on va se rendre, on va se cacher dans l'école des prophètes dans un autre village. Saül l'apprend, il envoie des hommes, verset 20, arrêter David. Ils virent une assemblée de prophètes en train de prophétiser avec Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu reposa sur les envoyés de Saül. Ils se mirent eux aussi à prophétiser. Quoi? Verset 21. On le rapportait à Saül qui envoyait d'autres hommes. Et eux aussi se mirent à prophétiser. Il en envoya encore pour la troisième fois. Ils se mirent également à prophétiser. Alors Saül se rendit lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne où se trouve Sécou, il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit, ils sont à Najot près de Rama. Il prit alors la direction de Najot près de Rama. L'Esprit de Dieu reposa ou tomba aussi sur lui et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot près de Rama. Il retira ses vêtements et prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre et resta dans ainsi tout ce jour-là et toute la nuit. Voilà pourquoi on dit Saül est-il aussi parmi les prophètes. Qu'est-ce qui se passe là? On est rendu à, juste pour vous rappeler, on est rendu à comment Dieu va intervenir en faveur de son oui. On a vu que Dieu, servir Dieu, va attirer les foudres de l'ennemi. Quelle est ta réaction naturelle? Quelle a été la réaction de David? Maintenant, comment Dieu va-t-il intervenir? Dieu va montrer quelque chose de vraiment particulier, de vraiment extraordinaire à David, là. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Saül envoie des hommes pour capturer David. Et l'Esprit de Dieu vient sur les messagers, sur les soldats à Saül. Ils se mettent aussi à prophétiser. Ils ratent complètement leur mission. On ne sait pas s'ils retournent ou s'ils restent là. Mais ils ratent complètement leur mission. Alors Saül envoie un autre groupe, même résultat, un troisième, même résultat. Saül dit, « Moi, je vais régler ça. » Il se rend lui-même et vous l'aurez défini. L'Esprit de Dieu tombe sur lui également. Il se met à prophétiser également. Tellement qu'il se déshabille. Certaines versions vont dire jusqu'à ses petits vêtements, ses sous-vêtements. Il reste à plat ventre toute cette journée-là et toute la nuit suivante. Wow! C'est quoi ça? Je pensais que Dieu l'avait rejeté, Saül, qu'il lui avait enlevé son esprit. Oui. Qu'il l'avait retiré, tout à fait. Alors, comment comprendre ça? Premièrement, petite parenthèse, connaissez-vous l'histoire de Balaam, un prophète dans le livre de Deutéronome, plusieurs centaines d'années avant? Moïse et le peuple de Dieu sont en train de commencer à préparer leur entrée dans la terre promise, et le roi de Moab, en les voyant, il panique et il fait venir un prophète de nos pays pour les maudire. Et Dieu avertit Balaam de ne pas y aller, mais il persiste et il va pareil. Mais Dieu résiste le prophète et il fait parler ou prophétiser son âne. Balaam, il rentre en conversation avec son âne, puis son âne lui parle. Est-ce que c'était vraiment l'âne qui parlait?
Non.
Ou c'était l'Esprit de Dieu qui parlait à travers l'âne? Donc, si l'Esprit de Dieu peut tomber sur un âne, faire parler un âne, il peut tomber sur n'importe qui. Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer ici? Qu'est-ce qu'il voulait montrer à David? Qu'est-ce que Saül avait à l'esprit? Il était bien décidé, lui, dans son esprit, d'aller quoi? Tuer David. Mais quel esprit est plus fort? L'esprit de l'homme ou l'esprit de Dieu? On le voit par trois reprises, et enfin avec Saül, que Dieu dit, ça ne se passera pas de même. Moi, mon esprit est plus fort que ton esprit, et je vais te le montrer. Est-ce que Saül a demandé à Dieu de recevoir son esprit? Non, pas du tout. Les hommes qu'il avait envoyés, est-ce que c'est ça qu'il voulait, dans le fond, aller se joindre à Samuel et sa gang de prophètes et passer une veillée à prophétiser? Pas du tout. C'était la dernière chose dans leur esprit. OK? Dieu est en train de montrer quelque chose de grand, très grand, David, et à toi et à moi ce matin, chers amis. Personne ni rien ne peut résister à son esprit. Il peut prendre contrôle des hommes comme il veut, quand il veut, s'il le veut. Il ne le fait pas parce qu'il respecte la volonté des êtres humains qu'il a créés à son image. Mais il pourrait, s'il voudrait. Ça n'a rien à voir avec leur salut. On sait pertinemment que Saül ne s'est pas repenti, ne s'est pas tourné vers Dieu et dire « Ah oui, c'est vrai, Dieu, excuse-moi, moi je suis complètement à côté de la traque, je suis égocentrique, je suis en rébellion contre toi, je veux tuer ton oint, David. » Non, Saül n'a jamais fait ça, il a continué d'empirer tout le temps, même si l'Esprit est venu sur lui. Dans cette occasion, il l'a fait prophétiser, ça n'a rien à voir avec le salut de son âme. C'est juste Dieu qui décide, non, ça ne se passera pas de même, puis tu vas voir, je suis capable de prendre contrôle de toi, malgré toi. Ici, l'Esprit de Dieu prend contrôle de son corps contre son gré. Wow! Aucune arme physique n'est efficace contre l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas ceux qui ont... Il y en a qui ont visionné la série des films « Le Seigneur des Anneaux ». Dans le premier film, la troupe traverse, la communauté de l'Anneau traverse les mines de Moria. Et là, il réveille, malheureusement, une créature diabolique, un balrog, qui monte des profondeurs et se met à les pourchasser. Et certains commencent à lancer leurs flèches, mais Gandalf, leur leader, dit « Fuyez, idiots! Vos armes physiques ne sont d'aucune utilité contre celui-là. » On dit que c'est une menace que les armes physiques ne peuvent rien contre. Alors imaginez, si c'est vrai du côté mal, diabolique, combien plus c'est vrai contre l'esprit du Dieu vivant. Une arme physique, un esprit, les armes que Saül avait, complètement inutiles. Les armes de ses soldats, complètement inutiles. Dieu a pris contrôle. Il a saisi leur corps et il a fait ce qu'il voulait avec. Et probablement que, là c'est des conjectures, là, prophétiser dans les actes quand l'Esprit de Dieu descend sur les premiers disciples, il prophétise, il déclare la gloire de Dieu. Il proclame les grandes œuvres de Dieu, les prodiges de Dieu. Prophétiser, ça ne veut pas dire nécessairement prédire l'avenir. Prophétiser, ça veut dire proclamer, tout simplement. Ça peut être un avertissement, ça peut être un encouragement, ça peut être un avertissement par rapport à ce qui s'en vient. Mais le mot prophétiser, ça veut simplement dire proclamer, parler de la part de. Je ferme la parenthèse. Dieu a démontré clairement à David, « David, tu t'es tourné vers moi, regarde-moi maintenant aller. » Imaginez David assis là, là, puis il voit ça arriver. Et il doit être émerveillé. Dieu démontre clairement à David et à nous ce matin, si nous voulons le saisir, qu'il n'a aucune arme physique, ni esprit humain ou autre qui peut nous nuire si Dieu est décidé de nous protéger par son esprit. Si tu es son enfant, je dis bien si, parce qu'il faut le devenir, par la foi en Christ. Si tu es ton enfant, les passages comme Zacharie 2:12 s'appliquent à toi. Dieu dit à son peuple, « Celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. » Moi, mon métier, c'est de prendre soin des yeux. Quand je m'approche pour toucher un œil, là, qu'est-ce qui se passe? J'ai toutes sortes de réactions. Toutes sortes de réactions, parce que les gens... Ils disent, « Ah, moi, mes yeux, là, ah, je l'ai dit, ah oui, OK, vous, je pense que c'est la première personne dans toute ma carrière qui a peur de se faire jouer dans les yeux. » Non, c'est naturel, c'est normal. Tout le monde se protège les yeux. Moïse a dit au peuple de Dieu dans le désert, en parlant d'Israël, « Il l'a entouré, il a pris soin de lui, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. » Il s'est montré pareil à l'aigle qui réveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes et les prend et les porte sur ses plumes. Wow! On a vu comment Dieu intervient en faveur de son oint de façon surnaturelle, de façon spectaculaire, de façon incontestable. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi aujourd'hui? Bien, vous savez, toi et moi, là, souvent, malheureusement trop souvent, nous nous prenons trop souvent contre le mauvais adversaire et nous utilisons souvent les mauvaises armes. D'abord, Jésus a déclaré à Pilate que son royaume n'était pas de ce monde, sinon ses serviteurs se battraient pour lui. Son royaume est d'abord spirituel et puis, oui, plus tard, il viendra régner physiquement. Notre roi veut épargner justement la vie de ses ennemis en ce moment pour leur donner l'opportunité de se repentir, se détourner de leur vie rebelle contre lui et être réconcilié à lui, au Père par son sang, le sang de l'agneau. Paul nous dit très clairement dans Éphésiens 6 qu'en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc, très souvent, tu t'en prends au mauvais adversaire. Tu t'en prends à la personne qui te menace. Ou les personnes, tu t'en prends à eux. Ça peut être ton patron, ça peut être ton collègue de travail, ça peut être ton voisin, ton conjoint même, ton enfant, ton frère et sœur dans le Seigneur. Tu t'en prends à la mauvaise personne. Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre le chair et le sang. Notre guerre est une guerre spirituelle. Donc si tu te laisses piéger pour entrer en conflit, attaqué parce que tu te sens attaqué ou manigancé ou manipulé parce qu'il y a une menace qui pèse contre toi, tu t'en prends aux mauvais adversaires. Tu t'en prends aux mauvais adversaires. L'adversaire, c'est le diable et tous ses acolytes. Paul nous dit clairement, et Jésus l'a dit exprimé clairement également. Dernièrement, j'ai été attaqué à quelques reprises. Une de ces attaques-là, c'est une plainte non fondée au Collège des médecins. J'étais fâché contre la personne qui a porté plainte parce que moi et mon personnel avions fait tout dans notre pouvoir pour répondre à ses désirs, ses besoins, même au-delà. Et je sentais une colère, une amertume monter en moi, puisque là, ça m'obligeait à passer beaucoup d'heures à réviser le dossier, à rédiger ma version des faits, à m'entretenir avec une conseillère légale et à envoyer tout ça après 2 ou 3 mois, alors que j'en avais déjà plein mon assiette. On n'a pas le choix de faire ça, car le collège est obligé de prendre chaque plainte au sérieux. Mais le Seigneur m'a rappelé que ce n'était pas contre cette personne-là que j'avais affaire. L'attaque ne venait pas d'elle, mais de quelqu'un derrière elle. On n'a pas à lutter contre le chair et le sang. On n'a pas à lutter contre les humains. C'est ça que la Bible vient de nous dire. Il faut reconnaître le vrai adversaire qui m'a lancé une flèche pour me décourager, pour me faire réagir, pour me sortir de la voie. L'Éternel, par son esprit, m'a rappelé ça, que mon vrai adversaire n'était pas cette personne-là, mais le diable, et que Dieu avait permis cette chose-là. Il me demandait d'avoir compassion pour la personne qui m'avait attaqué injustement, de prier pour elle-même. C'est ça qu'il voulait me montrer, et c'est pour ça qu'il a permis l'attaque de l'ennemi. Et par la grâce de Dieu, j'ai combattu en prenant le bouclier de la foi, comme nous dit Éphésiens 6, pour éteindre cette flèche de l'ennemi. Et j'ai remporté la victoire contre lui. La plainte a été rejetée par le collège. Je le savais d'avance. Mais ce n'était pas ça la victoire. La victoire était déjà acquise par l'Esprit de Dieu. Trop souvent, on s'en prend aux mauvais adversaires. Et trop souvent, tu combats avec les mauvaises armes. Tu essaies de combattre, comme on a vu, par ton intelligence, tes plans, tes stratégies, tes efforts. Tu essaies de regrouper des alliés autour de la cause pour t'aider à gagner. Peu importe la situation. Mais Paul nous dit dans 2 Corinthiens 6, 4, « En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. » C'est une leçon qu'il faut qu'on apprenne, frères et sœurs, et qu'on réapprenne. Tu te prends contre le mauvais adversaire et tu prends les mauvaises armes. Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Alors, pourquoi cette histoire de David? À quoi ça sert tout ça? Ça sert à nous montrer, toi et moi, que rien ni personne ne peut nous toucher à moins que Dieu ne le permette. Son esprit est plus fort que tout. Peu importe le leader politique, peu importe ton patron, peu importe la situation que tu vis, son esprit est plus fort que tout. Comme Jésus a dit à Pilate, tu n'auras aucun pouvoir sur moi. Si cela ne t'avait pas été donné d'en haut. On l'a vu dans la vie de Paul aussi, l'apôtre. Souvent attaqué. Il fait une liste à un moment donné. Il a été protégé, délivré miraculeusement de toutes sortes de situations à travers son ministère. Mais lorsque le temps est venu, Dieu a permis qu'il soit exécuté pour sa foi. Mais encore là, ce n'est pas l'ennemi qui a gagné. Parce que Paul ressuscitera. Il aura un corps incorruptible, immortel, fort, glorieux comme celui du Christ. La victoire finale appartient à Dieu. Donc, Lorsque tu vis, et peut-être que c'est le cas en ce moment, tu vis une situation menaçante, une situation dangereuse, une situation qui te bouleverse. Tourne-toi vers Dieu comme David. Tourne-toi vers Dieu. Va te mettre en prière. Va le contempler. Lis les psaumes. Les psaumes, là, c'est un cadeau. C'est un cadeau que Dieu te donne pour t'aider à entrer en communion avec Dieu, à exprimer ce que tu vis, à te révéler qui est Dieu en rapport avec ce que tu vis. Tourne-toi vers Dieu. Exprime-lui la situation. Exprime-lui tes craintes. Dis-lui, je suis anxieux, Seigneur, j'ai peur. Ah non, pas moi, j'ai pas peur. Oui, t'as peur. Exprime-lui, avoue-lui. Laisse-le te répondre. Laisse-le te répondre. Essaie pas de rationaliser. Essaie pas de trouver des solutions. Essaie pas de diminuer la situation. Essaie de laisser Dieu te parler comme David. Dieu s'est révélé à lui. Et finalement, tu vas expérimenter la protection puissante de son esprit. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui nous révèle, qui nous donne de l'intelligence, qui éclaire notre intelligence pour qu'on puisse comprendre, Seigneur, qu'on puisse saisir ces vérités que ton esprit veut nous révéler. Seigneur, on confesse que souvent, très souvent, trop souvent, nous nous prenons contre le mauvais adversaire et nous prenons les mauvaises armes. Nous nous laissons envahir par les situations. Seigneur, accorde-nous la grâce de se tourner vers toi, de laisser la lumière de ta face éclairer notre âme pour la gloire de ton Fils Jésus. Amen.